google-lesmouettes.com. C'est une radio web, je sais pas si tu connais ça, à écouter.
Alors, qui est pour, qui est contre?
Il ne se prononce pas. 100% des Dakarois sont pour l'occupation du théâtre de Cornouailles et de la réappropriation de l'espace public. Merci beaucoup.
Artiste, régisseuse,
comédienne, technicienne,
marionnettiste, circassienne,
les mater mitontes sur radi-occupé.org.
Mai 2020, le confinement s'achève et je viens d'avoir un enfant. Après des heures de communication chaotique avec Pôle emploi, sans compter l'angoisse de parvenir à déclarer 507 heures avant le début de mon congé, me voilà officiellement mater mitante. Je sabre le champagne et avale 5 exomiles pour faire passer tout ça. J'ai 3 mois devant moi pour cesser d'écrire des films qui n'auraient peut-être jamais vu le jour, arrêter de multiplier les projets quand il n'y en a de toute façon qu'un seul de financer, stopper net ma frénésie du travail, 30% salarié, 70% bénévole, et me dire qu'en comptant les mois, avec une reprise en août sans avoir travaillé pendant 3 mois, je pourrais potentiellement assurer une reprise financière en janvier. La réalité me rattrape. Je ne vois passer ni août, ni septembre, ni octobre. Et puis il y a l'année blanche et la dernière saison de Sex Education, alors à quoi bon s'entêter? Je me prélasse dans mon canapé en jogging, un bébé au sein. En novembre, on tâche de trouver une assistante maternelle. Mon dernier espoir réside en Sandrine, qui m'annonce que tout compte fait, elle préfère changer de métier. Tant pis, je reste encore un peu à la maison. Je perds la mémoire. Comment c'était avant? Avais-je un métier? Ma confiance en moi s'étiole. Mon ami baisse son temps de travail, mais continue à travailler. C'est plus facile pour lui, il est en CDI. Je ne me sens plus légitime à rien sauf à être mère. En décembre, un sursaut m'éveille. Je relis Mona Chollet. D'après elle, et selon les statistiques, je devrais bientôt arrêter ma carrière au profit de celle de mon conjoint. Comment suis-je arrivée là? Où est le bouton stop?
Vos gueules,
vos gueules, tiret, les mouettes.
.com.
Sur radi-occupé.org, la radio qui émet en direct du théâtre de Cornouailles occupé à Quimper. La semaine dernière avait lieu une agora sur le parvis du théâtre, sur la place des femmes dans la culture. Des extraits sont à écouter dans l'émission de la semaine dernière. Parmi les échanges, la question de la maternité a particulièrement attiré mon attention. Vous savez, ces maternitantes, comme on les appelle, ces femmes intermittentes en congé de maternité, et toutes ces femmes dont les métiers et les modes de vie ne cadrent pas forcément avec un statut ni avec un rôle de mère prédéfini. Il se trouve que j'étais moi-même matermitante il y a encore quelques mois. Et il ne s'agit pas seulement d'un statut, mais d'un état, duquel on a du mal à sortir indemne. Quand on est artiste, réalisatrice, technicienne du spectacle ou toute autre travailleuse discontinue, que l'on doit se relancer dans le monde du travail et de la précarité salariale, ce n'est pas mince affaire que de regagner confiance, légitimité et de se sentir accueillie et comprise par toutes et tous dans ce nouvel état de femme, mère, que l'on a du mal parfois à accepter soi-même. Pour en parler avec moi pendant une heure, voici Pauline, qui est à côté de moi, réalisatrice quimperoise, mère de Violette, 2 ans, et Simon, 4 ans. Salut Pauline.
Salut à toutes et tous.
Et Marie Pan, performeuse, et tu nous en diras un peu plus sur les méandres de ta profession de travailleuse discontinue. Et toi, tu as une enfant qui est plutôt au collège.
C'est ça. Bonjour.
Et avec nous, il y a Manu à la technique. Salut Manu. Et moi, Lisa qui vous parle. Avec Avec la situation sanitaire et l'année blanche, les femmes intermittentes du spectacle qui demandent un congé maternité sont en difficulté. Pour obtenir un congé indemnisé par la Sécurité sociale, il faut justifier de 600 heures de travail sur les 12 mois qui précèdent le début de sa grossesse ou 9 cachets dans les 3 derniers mois. Comment le faire alors que les offres de travail se réduisent à peau de chagrin et que la plupart d'entre elles n'ont pas le droit de travailler ? Le collectif Les Matermittentes exige que soient immédiatement prises des mesures d'urgence pour toutes les salariées discontinues qui n'ont aujourd'hui plus accès au congé maternité et maladie indemnisée parce qu'elles ont repris une activité insuffisante alors que leurs secteurs d'activité sont à l'arrêt. Donc nous, on les soutient, bien sûr. Pauline, tu as toi aussi été matermittente en 2018, il me semble, 2019 ?
2018 et 2016, juste avant.
Est-ce que ça a été difficile pour toi d'obtenir ce congé de maternité ?
Le premier, oui, en 2016, parce que l'année qui a précédé la naissance de Simon, j'étais en train de courir après les heures pour faire mon premier statut d'intermittente. Donc j'ai cumulé premier statut d'intermittente et premier enfant. Et je pensais avoir réuni les 507 heures pile poil juste avant mon congé maternité. Et puis au moment du calcul effectué par Pôle emploi, en fait, il me manquait quelques heures, je crois une dizaine. Donc j'ai été très peu indemnisée pendant mon premier congé maternité. Voilà, et pour le deuxième, j'ai pu anticiper un peu plus les choses, du coup, puisque j'étais déjà intermittente et normalement indemnisée pendant mon congé maternité, mais étant donné que l'après premier congé maternité a été compliqué pour me relancer dans l'emploi, eh bien, j'ai continué à travailler pendant le deuxième congé maternité. Voilà.
Peut-être que déjà tu peux nous parler de ce premier congé. Enfin, oui. Comment est-ce que ça s'est passé et comment s'est passée la reprise ensuite pour toi ?
La reprise, en fait, étant donné que je n'avais pas eu le statut avant d'être en congé maternité, je ne l'avais pas plus au retour du congé maternité. Donc il a fallu trouver des solutions pour faire ces 507 heures et en fait j'étais complètement perdue parce que je suis réalisatrice et c'est pas évident en fait de relancer des projets comme ça du jour au lendemain. Voilà, on a un métier où on a des phases d'écriture qui sont souvent pas rémunérées avant de pouvoir passer en développement ou en tournage d'un projet qui peut être financé ou pas d'ailleurs. Voilà, donc il y a tout un temps de relance de projet et que moi je pouvais pas me permettre puisque j'avais même pas d'indemnité en fait du Pôle emploi. Donc j'ai choisi de trouver un emploi secondaire et j'ai fait quelques mois en tant que surveillante dans un collège quimpérois.
Ça, tu as fait ça après ton congé ?
Ouais, après le congé maternité, quelques mois après, en fait, le temps de trouver des solutions et puis de passer les entretiens. Et donc, je cumulais mon travail de réalisatrice, d'écriture, ce travail-là, et puis s'occuper d'un enfant. Alors après, je n'étais pas toute seule, j'avais un compagnon. Et voilà. Et en fait, au bout d'un an et demi, j'étais à nouveau enceinte. C'était voulu, un peu précipité, mais... Voilà, donc je vous laisse imaginer un peu le bazar dans ma tête à cette époque-là.
Oui, c'est à peu près ce qui pourrait m'arriver maintenant. Je pense que je ne suis pas du tout prête à ça. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu, là tu me disais la semaine dernière à l'Agora, quand on a parlé de cette question, ça s'est venu un peu remonter des émotions, des choses que tu avais peut-être un peu laissées de côté. Est-ce que tu... Tu peux nous dire un peu ce qui t'est revenu, ce qui sont des choses peut-être qu'émotionnellement dont on ne parle pas beaucoup en fait, de ce qu'on peut vivre suite à la naissance d'un enfant.
Oui, alors j'avais la semaine dernière, j'avais plutôt pensé à l'après deuxième congé maternité. En fait, j'ai dû accoucher début décembre et début janvier, j'ai recommencé à travailler, même si j'étais toujours en congé maternité. J'allais donner quelques cours à la fac de Saint-Brieuc. Et en fait, comme j'allaitais mon bébé, que j'étais tout le temps avec lui depuis 3 semaines, 1 mois, Le fait de partir, ne serait-ce que deux jours, en fait, 48 heures, bon, bah, ça a été compliqué pour ma petite. Moi, j'étais dans une forme d'abnégation parce que ça avait été tellement dur après le premier congé maternité que de toute façon, j'avais décidé qu'il fallait que je travaille, même si j'étais fatiguée et puis pas prête. Donc j'ai fait mon boulot, j'ai retrouvé les étudiants et voilà. Et puis ça a duré comme ça jusque mars et puis la fin du congé maternité officiellement. Et bon, bah, je me souviens d'un grand état de fatigue, mais quelque part un peu plus confiance en moi parce que je travaillais. Alors que évidemment, je tiens à préciser qu'on m'avait proposé à l'université de me remplacer, mais j'avais refusé.
C'est un peu comme si tu devais faire le choix un peu entre les deux. Enfin, moi, je sais qu'en ce moment, je ressens un peu ça, où je me dis que je dois faire le choix entre ma vie professionnelle et ma vie avec mon enfant, ce qui, en fait, n'a pas trop de sens ou ne devrait pas trop en avoir. Et j'ai l'impression que plus je me plonge et que je me replonge dans le monde du travail, plus je m'éloigne de ma fille. Et en fait, c'est peut-être un sentiment qui est partagé avec mon compagnon, enfin voilà, qui est pas que je ne ressens pas moi que ça, mais est-ce que comment toi ça a été, cette question, est-ce que tu l'abordais, le fait tes émotions par rapport à la naissance de ton enfant, tu l'abordais dans le monde professionnel ou c'est quelque chose qui était tabou, dont tu parlais pas du tout?
Je sais pas si c'est une question tabou, mais en tout cas je l'ai pas abordé du tout jusqu'à la semaine dernière et puis cette émission. Autre part que avec mon compagnon, et c'est tout je crois, ouais, et c'est tout. Non. Après, sur l'histoire du choix, moi, j'ai jamais eu envie de choisir entre mon métier ou mes enfants. En fait, c'était très clair dans ma tête dès le départ que j'allais continuer à travailler. Et voilà, c'est mon métier. C'est aussi un métier de passion. Donc, je ne peux pas vivre sans. Comme aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans mes enfants. Après, c'est un équilibre à trouver. Et c'est un équilibre qui prend du temps à trouver. Mais je crois que ça se fait avec les mois, avec la vie qui avance, quoi. Ouais.
Toi, Marie-Pan, tu as une enfant qui est plus grande, du coup, qui est au collège. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là, si tu te souviens de cette période ou de ce que raconte un peu Pauline?
Au moment où elle est née, tu veux dire il y a 13 ans?
Oui, il y a 13 ans.
Est-ce que je me souviens? Oui, je me souviens. Je me souviens bien de cette période-là. En tout cas au moment de ma grossesse, j'avais vraiment pris complètement le temps pour ce qui était en train de se passer. Je suis un peu jusqu'au boutiste, du coup c'est là que j'ai commencé la bio parce que je voulais accoucher toute seule. Donc c'était vraiment un choix pour le coup d'aller complètement là-dedans, je m'y retrouvais moi-même complètement. Et après la naissance, je pense que ça a été un peu pareil pendant 2, 3, voire 4 ans. Où en effet, elle a commencé d'aller à l'école et puis ça s'est assez mal passé. Du coup, j'ai fait une formation d'éducatrice Montessori pour pouvoir l'accompagner en fait dans le début de l'apprentissage de la lecture et du calcul. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai quand même dû me dire oula, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, et t'es où toi? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Et je pense qu'à partir du moment où ça a été conscientisé, c'est allé très très vite. Où j'ai pris les choses en main et j'ai commencé à reprendre. J'avais quand même pas du tout complètement lâché le monde associatif, mais j'avais pas mal mis ça de côté. Et en tout cas, la création, c'était vraiment, vraiment de côté. Du coup, je pense qu'à partir du moment où c'était conscientisé, j'ai fait ce qu'il fallait. Du coup, j'étais pas mal toute seule avec ma gamine. Donc, je l'ai traînée avec moi un peu partout. J'ai toujours habité en coloc. Je mettais mes colocs dans l'affaire. Voilà, je partageais. Je me suis construit un peu un monde autour de moi pour pouvoir continuer de faire ce que j'avais envie de faire. Et enfin, je me suis donné des outils pour pouvoir continuer à être, à faire ce que j'avais envie de faire, même si c'était pas, ça rentrait pas dans le cadre d'une vie peut-être normale pour un enfant, quoi.
C'est quand même toujours un peu une bataille, en tout cas, même si on a l'impression d'avoir déconstruit énormément de choses. Il y a, avec la naissance, souvent des choses qui nous reviennent un peu dans la gueule, des modèles familiales ou des choses qu'on pensait bien loin, mais qui en fait sont bien présents inconsciemment. À l'Agora, là, la semaine dernière, sur le parvis du théâtre, il y avait aussi Elsa Kor, chanteuse, qui est aussi intermittente du spectacle et qui a eu Yael en 2016. Yael a aujourd'hui 4 ans. Elsa, elle, ne fait pas comme la plupart des intermittents du spectacle et autres travailleuses discontinuent un métier de routine. Elle se déplace beaucoup pour chanter, mêle les répertoires traditionnels bretons et galiciens, travaille sur des créations avec le duo du bas, aime faire danser les gens en fez-noz et multiplie les projets et formations. Je suis allée la rencontrer chez elle et elle nous raconte comment elle a vécu l'arrivée de sa fille en 2016.
Quand Yael est née, moi, avec le recul, cette période des premiers mois, pour moi, a été un chaos. Mais je pense que c'est le cas, ou un séisme, on peut dire, un chaos, un séisme. Donc effectivement, où du coup, le centrage sur toi se décale complètement et c'est plus toi l'important, c'est ton bébé. Et je pense que c'est aussi quelque chose que la société et mon éducation, pas du tout un reproche à mes parents ni rien, hein, mais c'est quelque chose qu'on porte inconsciemment. Et je pense que, personnellement, moi, j'avais pas du tout travaillé ça, ni déconstruit ça avant d'avoir un enfant. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais un deuxième enfant, je le vivrais pas du tout de la même manière. Mais en tout cas, je portais ce truc un peu de sacrifice, de la mère sacrificielle qui donne tout à son enfant, à sa famille, à son couple, enfin, bref. Et du coup, j'ai beaucoup déconstruit ça depuis quelques temps, notamment suite à une séparation et tout. Et donc, je pense que moi, ma position, c'était je m'oublie complètement et j'y vais à 100%. Et en plus... Donc, est-ce que l'un nourrit l'autre ? J'en sais rien, mais Yael était un bébé qui demandait énormément d'attention, peut-être plus que certains autres bébés. J'ai un souvenir de me retrouver dans le salon et d'avoir Yael au sein et d'avoir l'impression d'être seule au monde, en fait. De plus trouver de sens à ma vie. Ouais. J'avais une envie de fuir un peu cet état de maternité permanente. Et de me recentrer sur moi, et en même temps j'allaitais, donc je tirais mon lait et tout ça, donc je crois que j'ai un peu regretté de pas plus pouvoir amener Yael avec moi. Tant qu'on n'a pas d'enfant, sa vie n'est pas adaptée à un enfant. On a la liberté de tout faire, en fait. On est irresponsable de personne d'autre que nous-mêmes. Donc, une fois qu'un enfant est là, ben là, on devient responsable de cet enfant. Et je dis un exemple tout bête, mais aller à un concert à 22h avec un enfant d'un mois, il y en a qui le font, mais moi, ce n'était pas quelque chose que j'aurais fait. Et du coup, ben forcément, la liberté de faire ça est restreinte. Je pense qu'on n'est pas tous fait pareil et on n'a pas tous la même... capacité à adapter son environnement à 100% à une autre personne. Et je pense que moi, j'ai mis du temps à accepter, en fait, de tout faire en fonction, quoi. Enfin, mais c'était inconscient, complet, hein. C'est avec le recul aussi que je me rends compte de ça. Quand j'étais dedans, j'étais dedans. Et puis je le faisais comme ça parce que c'était comme ça que je pensais que c'était... Enfin, je me posais pas plus de questions que ça. Je me dis qu'aujourd'hui ce serait plus simple parce qu'on sait ce que c'est, parce que je sais ce que c'est la venue d'un enfant, parce qu'aussi je pense qu'il y a moyen, à partir de la personne qu'on est et la personnalité qu'on a, d'adapter ce sacrifice maternel en fonction de l'adapter, tout simplement, en fonction de rien, mais en fonction de soi, tout simplement. Enfin, je sais que faut pas qu'on... Enfin, faut pas. Moi, je me suis oubliée en tant que femme, je crois. J'ai même pensé à un moment donné que je n'étais plus femme, que j'étais plus que mère aussi à un moment. Et que voilà, c'était foutu, quoi.
L'air gari et mes les délus à rouille, les regards de la rique à les regards aimés des lieux à rouille, pas vidis trop en mangue et fond. Nusque d'ahals aimés boque d'ahlin, nusque d'ahals à rouen fouille ta bro. Nusque d'ahals aimés boque d'ahlin, pas vus cuis au fouettant et taille.
Je décapite la mère parfaite qui menace en moi. Des blogs, des articles, des livres paraissent. Ils s'intitulent « La mère indigne, mauvaise mère, la vérité sur le premier enfant ». Avec humour et mauvaise foi, des femmes disent la colère, l'ennui, le trash et m'aident à respirer. Mais la mère parfaite est plus fourbe qu'on ne le croit. Comme dans n'importe quel film d'horreur, le monstre prend plusieurs visages et brouille les pistes. La mère parfaite niveau 1, rivée à sa cuisinière, avec la maison et le bonheur conjugal comme seul horizon, s'est entendue, j'y ai échappé. Entre alors en scène la mère parfaite niveau 2, qui domestique toute sa créativité au profit de son enfant, qui est incollable sur le maternage naturel, qui cuisine des petits plats savoureux et équilibrés, qui a l'air libre, mais qui a ruiné sa vie sociale. L'ennui avec ces nouveaux dogmes, c'est que si le père ne s'investit pas, la mère est ensevelie sous son bébé. Un peu comme sa propre grand-mère, sauf que celle-ci avait appris à n'avoir aucune ambition personnelle. Celle-ci, j'y échappe de justesse. Surgit alors la mère parfaite niveau 3. Celle qui parvient à tout gérer, à concilier, quel mot immonde, il n'y a que les femmes pour concilier, vie sociale, familiale, professionnelle, montre en main, dents serrées. Qui tente d'articuler dans un même discours la joie de rencontrer son enfant avec les bases élémentaires de lutte contre le patriarcat et le tout avec très peu d'heures de sommeil. Est-ce que je lui ai bien réglé son compte à celle-là ? Le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite, c'est de glandouiller. Le terme est important car il n'appelle à aucune espèce de réalisation. Il est l'ennemi du mot « concilier ». Car si faire vœu d'inutilité est déjà courageux dans notre société, pour une mère, c'est la subversion absolue. Le jour où je refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama toute la journée, je sens que je tiens quelque chose.
Merci Marie Pan pour la lecture d'Amandine D. Merci Amandine D pour La Femme Brouillon. Moi avec des copines, quand on a eu notre enfant il n'y a pas si longtemps, on avait envie de sortir dans la rue avec des pancartes, de faire une grosse manif et de dire « voilà ce que je vis ». On avait envie que ça soit entendu. C'est un peu ce que fait Amandine D là dans ce bouquin. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans ces témoignages qui sont quand même assez rares. Et qu'en fait, c'est une période aussi où on a peu le temps de réfléchir et peu le temps de se positionner, peu le temps de mettre des mots en fait, sur ce qu'on vit. Et pourtant, c'est hyper ô combien important. Qu'est-ce que ça vous évoque là toutes les deux la lecture et puis ce qu'a pu nous dire Elsa, est-ce que y a des choses qui vous sont venues un peu à les écouter?
Bon, moi je connais pas ce texte donc j'ai envie de le lire maintenant et non voilà tout de suite je me suis dit mais est-ce que je suis dans une de ces catégories?
Tu serais dans quelle catégorie alors?
Dans aucune, dans les trois en même temps peut-être, mais c'est sûr que la mère parfaite non, mais en tout cas j'ai dû faire des choix et c'est ma vie sociale qui en a pâti puisque voilà, je voulais moi je pense que je m'épanouis beaucoup par mon métier parce que c'est beaucoup de rencontres, voilà, donc c'est aussi une vie sociale, mon métier est une vie sociale.
Je rappelle que toi, tu es réalisatrice de films.
C'est ça. Donc, voilà, mais c'est ça. De toute façon, on peut plus avoir la même vie qu'avant. Il faut faire les choix. Et parfois, ces choix sont douloureux. Donc, on perd des amis, par exemple. Puisque voilà, quand on est plus centré sur ses enfants, sur son enfant, sur son activité, on perd des choses forcément. Et ça, moi, ça m'a rendu souvent nostalgique. Voilà.
Marie-Pente, toi, tu as amené ta fille en tournée avec toi. Je t'entendais dire ça à l'Agora l'autre jour. Moi, je trouve que c'est tellement difficile d'être présente mentalement quand j'ai ma gamine dans les parages. Et puis, au début, je trouve qu'on n'a pas forcément la force de casser les codes ou c'est comme être féministe, en fait, H24. Des fois, on a juste envie de fermer sa gueule parce qu'on n'y arrive pas, qu'on est... Enfin, voilà. Et je trouve que c'est chouette quand même d'y arriver. Enfin, ça redonne aussi confiance en soi. Alors, je me demande juste où tu as trouvé cette force-là, toi, de te dire, bah voilà, j'emmène ma gamine et je me pose pas trop de questions.
En tout cas, je pense que je vous entends un peu dire quel sacrifice vous avez fait. J'entendais Elsa parler de ça aussi. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait pas de sacrifice sur ma vie sociale, pas vraiment de sacrifice. En fait, quand je regarde, je pense que j'ai clairement fait le sacrifice de ma santé. Parce que tout ça, c'était tellement important pour moi. Tout ça, j'étais pas capable de lâcher quoi que ce soit. J'étais pas capable de lâcher... De faire tout ce que j'avais très envie de faire pour ma fille, de faire mon boulot, de faire tout ce qui m'attirait à droite à gauche. Et j'en ai clairement pâti très fortement plus tard. Donc voilà, je pense qu'en effet, il y a toujours un moment où il y a quand même quelque chose qu'on sacrifie d'un endroit ou un autre quand on donne beaucoup d'énergie comme ça. En tout cas, en lisant le texte, là, je pensais aussi que... J'ai l'impression que dans ces moments-là, avec des enfants où on se pose toutes ces questions-là, où on est déjà, de toute façon, j'ai l'impression dans des vies où on se pose vachement de questions sur comment on vit, qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment est-ce que moi je me place dans ce monde-là, etc. J'ai l'impression qu'on est déjà en train de se débattre un peu toutes et tous. Et là, avec l'arrivée d'un enfant à cet endroit-là, c'est comme double débat, quoi. Et en effet, moi, j'ai souvenir de ces périodes comme quelque chose d'un peu brouillon, d'un peu confus, où j'essaie de rester sur tous ces fronts-là qui sont super importants. Et c'est juste encore une case de plus à casser, là, cette histoire de maternité. Mais c'est vrai que je sais pas où j'ai trouvé cette énergie-là. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que j'étais une louve, quoi. Je m'en fichais. Je la prenais avec moi et... Rien à foutre de qui que ce soit, dit quoi que ce soit ou quoi que ce soit. Après, par contre, par rapport à la disponibilité de cerveau, par rapport à l'enfant dont tu parles, ça, c'est clair que c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident à gérer. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup demandé à ma gamine. C'était clairement, ça a été compliqué pendant un certain temps. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, en fait, il y a des moments, c'est pour moi. Là, c'est pour moi, je t'emmène, mais c'est pour moi. Et puis, il y a des moments où c'est pour toi. Et du coup, une fois que j'ai eu bien défini ces choses-là, c'était plus simple pour moi de gérer. En fait, voilà, elle n'est pas très bien, elle pleure. Moi, je vais jouer et point barre. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe, je lui fais confiance. Et je laisse ce truc-là se faire, c'est sa vie, quoi.
C'est un travail aussi autour de la construction de l'identité aussi, enfin de comment on se perçoit en tant que mère. Enfin, moi, je sais que par exemple, pour moi, ça a été... et c'est toujours très compliqué. Je pense qu'avant d'avoir un enfant, et je pense que je me suis toujours dit peut-être que j'aurais pas d'enfant, que c'est pas quelque chose que j'ai désiré profondément. Ça arrivait, voilà, c'est là. Et je pense qu'avant d'avoir un enfant, les mères que je croisais dans la rue, derrière une poussette, je pense que j'ai pu les mépriser très violemment. Et je me rends compte à quel point c'est violent, ça, aujourd'hui. Parce que je me retrouve de l'autre côté dans cette situation. Donc je pense que c'est vrai que quand tu as un problème avec cette identité-là, cette identité de mère, peut-être que des fois tu fais le choix de plus te cacher, de moins l'assumer. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est plus mon cas. Que dès que ma gamine elle pleurait en public, quand elle est toute petite, elle est toujours petite, mais j'ai un peu travaillé là-dessus, mais ça me terrorisait et j'avais envie qu'elle se taise parce que ça me ramenait cruellement en pleine gueule que j'étais mère en fait, et j'avais pas du tout envie de ça. J'avais pas envie qu'on me dise que j'étais mère, d'ailleurs, ce mot, je me retrouve pas du tout dedans. Je trouve qu'il y a un vrai travail là-dessus et à déconstruire aussi, être un peu moins peut-être, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'on est soit dans l'idéal de la mère parfaite, dans un sens, quoi, soit à l'enfouir bien loin pour qu'elle s'efface et qu'on la voit pas sur la place publique. Je sais pas ce que t'en penses de ça, toi, Pauline. Comment tu as pu vivre ça, cette identité de mère ? Est-ce que c'était clair pour toi dès le départ ?
Euh, clair, non, pas forcément. Après, aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose que je vis bien. Non, moi, je suis bien dans mon rôle de maman. Je crois que ça me questionne pas au quotidien. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je m'obstine à vraiment séparer ma vie de maman et ma vie au travail, ma vie sociale. Et moi, pour le coup, j'ai pas envie de mêler les deux. C'est deux mondes. Alors, peut-être que plus tard, ils vont se croiser. Peut-être que là, c'est parce qu'ils sont petits et que c'est pas forcément simple d'avoir deux petits de 2 et 4 ans, plein de vie, à courir, à sauter partout et à surveiller aussi. Enfin, voilà. Mais moi, c'est le choix que j'ai fait, de séparer les choses.
J'aimerais bien qu'on relise un petit bout de La Femme Brouillon. D'Amandine D, peut-être la partie page 95, si tu veux bien, Marie-Pan.
Le poète est formel, écriture et vie de famille sont incompatibles. Les contraintes domestiques ne conviennent pas à l'écrivain ivre de liberté. Je me braque, crie au cliché. Cite les écrivaines qui ont des enfants, liste incantatoire. Je mélange nerveusement ma tasse de café. Je me suis souvent moquée des écrivains qui se complaisent à détailler leurs rituels. La fenêtre face à la mer, la tasse en porcelaine héritée de la grand-mère, le bruit des pas sur le plancher et autres clichés bourgeois. Mais je ne peux pas nier que j'ai égaré mes propres rituels. Qu'ai-je fait de mon imaginaire ces derniers temps? Il ne suffit plus que je m'enferme dans mon bureau. Il faut retrouver de l'espace à l'intérieur. Ou prendre le temps de tâtonner. Mon cerveau est colonisé. Même absent, le bébé m'accapare. La femme lézard se fiche de la littérature. La précarité me pèse soudain. J'ai des accès de conformisme. Je voudrais un canapé en cuir, des vêtements beige, un métier normal. Je n'ai plus l'énergie de créer. Je veux rentrer dans le rang, limer mes griffes, arrondir les ongles. Vous êtes ce que j'ai fait de plus beau, nous disait ma mère. Mon frère et moi, deux petits îlots flottant dans sa détresse, son unique source de fierté. Je voudrais ne pas répéter cette phrase à mon enfant. Je refuse qu'il soit ma plus belle création. Pire, mon accomplissement. Je m'enfuis au café du coin. Là-bas, je suis une anomalie sociologique, mais on m'accueille gentiment. Dans ce bruit blanc, où je ne dois consoler personne, où personne n'a besoin de moi, je parviens à écrire au prix de 2 cafés. Le temps est compté. À midi pile, le patron pointera sa télécommande vers le petit écran pour regarder une émission de culture générale où des candidats répondent à des questions A, B ou C avant de s'auto-applaudir et de se dandiner au son du jingle sous une pluie de paillettes. À chacun ses victoires.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs, ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps, qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Avec Elsa, on a aussi parlé de cette question de la norme, elle parle de ça dans cet extrait, de la norme et du modèle familial dans lequel des fois on a juste, comme je disais tout à l'heure, l'impression d'avoir déconstruit et puis finalement on ne l'a pas vraiment déconstruit. Voilà, on va écouter Elsa là-dessus, qui nous parle aussi de ce que c'est justement être femme intermittente.
La chanteuse, elle sortait de son concert à 23h minuit et puis, et puis elle prenait sa bagnole pour faire 2h30 de route pour rentrer, pour être là le lendemain matin pour sa fille, quoi. Donc bon, au final, quand même, toujours cette idée de sacrifice. Et je crois que ça m'a beaucoup fatiguée, ça. En fait, la réalité aujourd'hui, elle a beaucoup changé pour moi, parce que déjà, j'ai la moitié du temps où j'ai pas mon enfant. Ce qui diffère un peu avec toi, c'est que moi, je suis plus avec le père de ma fille. Donc ça change beaucoup la donne, c'est-à-dire que cette liberté un peu perdue au moment d'avoir son enfant, ça peut être très mal vu ce que je suis en train de dire, mais, mais en même temps c'est vrai que bah, du coup tu la retrouves. Et pendant les 5 ou 7 jours où j'ai pas Yael, moi je mets plein de choses à faire, c'est là que je mène mes répétitions, je pars 3 jours ou là, la semaine prochaine, je pars à Marseille pendant 5 jours. Enfin, voilà, je vais me permettre beaucoup plus ça. Et j'ai plus de compte à donner à personne aussi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même ce modèle familial qu'il fallait, à qui il fallait soumettre un peu mes départs, tout ça, mes tournées, mes concerts à l'étranger. Mais aujourd'hui, j'ai plus ça à faire, et mine de rien, c'est une charge mentale en moins. Je suis obligée de l'avouer. Et c'est ça qui n'est pas évident quand on est intermittente du spectacle et qu'on est en couple avec quelqu'un qui ne l'est pas. C'est qu'on a des emplois du temps qui ne correspondent pas. Et en fait, malheureusement, les statistiques montrent que c'est très, très compliqué. C'est assez compliqué pour des hommes de rester avec des femmes intermittentes. On ne correspond pas au modèle qu'on attend de nous. Après, je ne suis pas en train de dire que le père de Yael attendait un modèle de moi, mais c'est quelque chose qui est tacite qui est inconscient complètement. C'est-à-dire qu'on reproduit des choses et puis... moi, j'ai... Voilà, et encore aujourd'hui, je travaille tout ça. Je me pose des questions sur quel modèle j'avais avant, quel modèle j'ai aujourd'hui. Et clairement, aujourd'hui, je suis à côté de la norme, puisque j'ai un enfant, je vis en coloc avec d'autres femmes, je suis intermittente du spectacle. Enfin, voilà, je pense que clairement, je suis sortie un petit peu de cet escalator, comme diraient certaines sociologues féministes. Et pour moi, pour ce que je suis aujourd'hui, j'en avais besoin, en fait.
Vogel-lesmouettes.com.
Moi, je voulais te demander, déjà peut-être Pauline, comment tu as un peu vécu ce que dit Elsa par rapport à cette histoire de normes et de modèle familial. Est-ce que c'était facile de t'en défaire? Est-ce qu'il y a des choses qui te sont revenues un peu comme ça, un peu dans la face quand tu as eu tes enfants? Comment est-ce que tu as travailler cette question.
Notamment
en étant aussi intermittent du spectacle et donc travailleuse discontinue, ce qu'on, pour beaucoup de personnes, ne correspond pas à la norme aussi de travail.
Bon, déjà, effectivement, en étant intermittente, je ne suis pas dans la norme de travail, mais je vis avec quelqu'un qui n'est pas aussi forcément dans une norme de travail, parce qu'il part pour des longues périodes en mer. Donc, de toute façon, dans notre façon de vivre avant d'avoir nos enfants, on était dans une anormalité. Le fait d'avoir eu nos deux enfants, on a eu besoin de mettre un peu de normalité, parce que sinon, ce n'était pas gérable, en fait, avec des emplois du temps, des déplacements, pour lui comme pour moi. Je crois que ça s'est fait plutôt dans ce sens-là. Sachant que moi, clairement, je me déplace moins. Mais je me souviens quand même, 10 mois après la naissance de Simon, je suis partie 10 jours en Suisse, 10 ou 15 jours en Suisse, faire les vendanges. Voilà, il avait 10 mois. Je ne sais pas si toutes les mamans... voilà, se disent qu'elles peuvent faire ça hein, quand leur enfant a 10 mois. Moi, je l'ai fait, je ne me suis pas posé de questions. Le papa était là. Et puis voilà. Donc, c'est ça. Mettre un petit peu de normalité, finalement, avec l'arrivée des enfants.
Est-ce que justement, quand on a des enfants, on n'a pas envie de tout casser ? Enfin, moi, je sais que c'est vraiment ce travail-là que j'essaye de faire tout le temps. Et au point de. Parce que je trouve que avoir un enfant à côté de moi là, collé à moi, parce que bah oui, c'est des enfants tout petits, ça me ramène à une espèce de normalité, de modèle familial, de que j'ai du mal à accepter, qu'on me regarde comme ça en disant voilà, ce que je disais tout à l'heure, elle est mère, elle est et donc j'ai l'impression que justement moi ça me fait un peu travailler la question dans l'autre sens, quoi, d'essayer de faire éclater les choses. Mais n'empêche que voilà, il y a des choses qui restent encore, quoi. Mais toi, Marie-Pan, toi, tu l'as vécu comment ça, ce qu'on se dit là ?
Ben moi, je me retrouve pas dans ce que tu dis, Pauline. Je crois que après, j'imagine que ma mère avait dû déjà faire pas mal de taf avant, fait que j'ai dû hériter de ce taf-là. Et je pense que je me suis plutôt dit, heureusement que j'ai fait des études Montessori où elle commençait à dire c'est bien d'avoir un peu de cadre dans la vie d'un enfant, parce qu'alors j'en étais mais pas du tout là. Et du coup, oui, justement, j'ai eu l'impression de chercher à ramener de la normalité, entre guillemets, enfin du cadre dans ma vie pour elle. D'ailleurs, c'était intéressant pour moi aussi. Et d'ailleurs, elle l'a formulé assez vite, en fait, dès qu'elle a été capable de communiquer, clairement a demandé, ben, en fait, moi, je voudrais dormir un certain nombre de nuits d'affilée dans mon lit, je voudrais, etc., etc. Donc, c'était même encore maintenant, si la seule chose qu'elle me demande encore, c'est du cadre. J'aimerais bien que tu me dises ça, ça, ça. Et donc, du coup, oui, moi, j'ai eu plus cette sensation-là de... Après, moi, j'étais super jeune. Hein. J'avais 25 ans. Enfin, jeune. Par chez nous, c'est jeune. Dans mon entourage, autour de moi, je vivais dans des collectifs super importants. Je croisais énormément de gens. Personne n'avait d'enfants, mais vraiment personne. Et les gens me regardaient un peu comme si j'étais une extraterrestre. Le fait que je sois mère, le fait que j'ai un enfant, etc. Puis je pense que j'étais un peu bulldozer, fait qu'ils n'osaient pas trop. Au contraire, du coup, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de... peut-être que je devais être une figure de femme un peu mature ou quelque chose comme ça. Et du coup, les gens ne me rentraient vraiment pas dedans. Ils étaient comme plus un peu à mon service. Et je m'en suis pas mal. Mes potes, surtout des mecs, se sont vachement occupés de ma fille. Ils ont vachement relayé ça. Voilà, ouais, tout ça pour dire que ouais, c'est plutôt de la recherche de l'inverse, de ramener un peu de normalité dans la vie. J'ai pas subi ça.
Est-ce que finalement, c'était pas aussi une chance d'être dans ces espaces-là avec pas forcément des gens autour de toi qui avaient des enfants ? Est-ce que ça t'a permis peut-être aussi d'aller plus loin dans faire à ta manière, pas faire comme les autres ou se comparer ou,
Sûrement, complètement. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça aide quand t'as pas trop de schéma pressant autour de toi, ben, c'est facile de dessiner les choses comme tu voudrais qu'elles soient, quoi. Ouais, je pense que c'est sûr que ça aide. Après, je dis pas qu'il y en a... Enfin, on a tous quand même pétri par ces trucs-là. Hein. Je dis pas que c'est pas quelque chose qui a jamais existé en moi ou quoi, mais c'est étrange parce que j'ai l'impression plutôt d'avoir carrément un retour de ça. Là, maintenant, il y a des moments où je me dis, quand même, ce serait peut-être chouette d'avoir une vie un peu plus normalisée, un peu plus posée. C'est assez étrange que ça revienne comme ça sur le tard. Je sais pas trop quoi faire de ça.
Il y avait un autre extrait que j'avais envie d'entendre, enfin, que de vous proposer d'entendre, parce que moi, je les ai déjà entendus. C'est Cécile de Artibigara, ça s'appelle Nouvelle Mère. Et c'est Marie-Pont qui va vous le lire encore. Page 159. J'ai l'impression d'être à la messe. C'est vraiment super bizarre, mais on n'est pas à la messe. On est sur radio-occupé.org.
On ne mérite pas ces poches sous les yeux, ces vêtements qui ne nous vont pas et dans lesquels on s'est glissé pour aller faire quelques courses. On ne mérite pas d'être silencieuse à table alors que les autres parlent fort de leur voyage et de leur prouesse, pendant que notre prouesse reste invisible. On ne mérite pas non plus les appels vidéo où l'on se tient à côté de notre enfant et que personne ne nous dit bonjour ou au revoir. On ne mérite ni les cheveux gras, ni l'air négligé, ni les restes de repas froids de nos enfants mangés parce qu'il ne faut pas gaspiller. Une nouvelle mère est une reine. Son corps devrait être huilé tous les jours, recouvert de miel, adulé. Son corps est une des sept merveilles du monde. Dans la rue, dans le monde où je veux vivre, une nouvelle mère se tient derrière sa poussette et elle marche en pleine conscience de sa grandeur. Pour la première fois de sa vie, elle l'adopte sans gêne, le porc altier. Et elle cherche même dans le dictionnaire sa définition exacte. Altier, qui manifeste de l'orgueil, hautain, fier. Oui, c'est moi ça, elle dit, en jouant avec ce mot dans sa langue, en redressant son dos, en se sentant belle.
Je t'en supplie, baisse un peu la radio. Non, il n'est que 5 heures du matin.
Arrêtez de subir, faites-vous plaisir. Vogel les mouettes, une radio à ouïr. Vogel-lesmouettes.com.
Les 4 premiers mois, les 5 premiers mois où t'as ton enfant, tout le monde te demande comment tu vas, comment voilà, ça se passe, est-ce que tu... Puis après, plus rien. Toi, Pauline, tu dis que tu abordais pas la question dans le monde professionnel. Moi, je dirais que le retour brutal à « Alors, t'as des projets c'est quoi tes projets? Tu fais des films ?» a été assez violent. Là où je pense que c'est ce moment-là où je me suis un peu effondrée. Bah non, là, j'ai pas de projet, j'arrive pas à écrire, je me sens déconnectée de ce monde que mon travail consiste à filmer. Comment je fais pour partir en tournage une semaine? Comme si personne ne se rendait compte de l'énergie que ça me demandait déjà sans enfant, alors avec. Voilà, sans compter l'état émotionnel dans lequel je suis. Je me demande, moi, si la société pourrait pas se préoccuper un peu plus de ça, quoi, un peu plus de nous, si finalement c'est pas une question politique plus qu'individuelle. Enfin, on nous ramène peut-être facilement à la question de bon, t'as décidé de faire un enfant, démerde-toi, et voilà. Et puis, bon, d'ailleurs, pourquoi tu fais une émission d'une heure là-dessus, puisque ça nous concerne. Ça concerne qu'une partie de l'humanité. Enfin voilà, moi j'avais envie de dire que j'étais pas d'accord avec cette idée-là et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Maintenant que j'ai dit que j'étais pas d'accord, vous allez pas dire l'inverse, mais j'ai l'impression d'en avoir un peu parlé informellement avec toutes les deux avant. Donc je sais pas, peut-être Pauline, si tu veux dire toi ce que tu penses de cette question d'inclusion en fait aussi un peu des mères, des enfants dans la société et comment t'aimerais que ça se passe idéalement et qu'est-ce que tu penses de ça?
L'inclusion des mères dans la société. Moi, ça me fait forcément réagir aussi à l'échelle de deux parents, donc une maman et un papa. C'est déjà aussi avoir un enfant, c'est... Voilà, moi je l'ai fait à deux. Et donc, dans mon couple, on a décidé que ce serait mon compagnon qui travaillerait moins. Alors, c'est pas à l'échelle de la société, mais je trouve que déjà cette réflexion, cette avancée à l'échelle du couple, que ce soit le papa qui se mette en retrait de sa vie professionnelle pour permettre à la maman éventuellement de faire ce qu'elle a envie de faire.
Le papa ou le deuxième parent,
d'ailleurs.
Le papa ou le deuxième parent, tout à fait. Voilà, après... je pense que... voilà, les femmes se sont battues pour pouvoir travailler, ne pas s'occuper que des enfants. Et le truc, c'est qu'elles ne peuvent pas tout faire. Voilà, elles ne peuvent pas tout faire. Elles ne peuvent pas tout mener de front, ce n'est pas vrai. Donc, il faut que les personnes qui élèvent l'enfant ou les enfants voilà, participent. Ce n'est pas que le rôle de la maman, en fait, c'est ça. Peut-être qu'il faut questionner.
C'est vrai que je précisais pas que oui quand moi je pose cette question c'est l'intégration des deux parents en fait hein, bien sûr parce que est-ce que on doit élever un enfant qu'à deux en fait aussi c'est une question
oui après c'est les deux personnes qui ont choisi d'avoir un enfant après il y a tout l'entourage évidemment qui intervient et moi que je peux solliciter aussi régulièrement pour pouvoir faire autre chose.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question de l'inclusion et de la société ? Ben,
élever des enfants, un enfant pas que à deux, pour moi, c'est arrivé super vite dans ma vie parce que ben, je me suis séparée du père de ma fille super rapidement. Elle n'avait pas encore un an. Ça a déjà été, bam, grosse première désillusion assez rapidement dans la vie. Et du coup, évidemment, assez vite, j'ai dû, comme elle était beaucoup avec moi anyway, j'ai dû trouver des façons de. En fait, c'est hors de question que je sois le seul repère adulte qu'elle avait, quoi. Donc oui, en fait, j'ai cherché ailleurs ça rapidement. Après, c'est comme. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux dire comme à l'échelle de la société. Je ne sais pas trop comment je peux parler pour les autres. Mais en tout cas, pour moi, ce que j'imaginais, c'était qu'il puisse y avoir plusieurs référents adultes autour d'elle. Et de plus en plus, j'ai envie de dire, parce qu'au début, je crois que c'est quand même bien de pas non plus que ce soit trop important. Et du coup, en fait, c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai beaucoup vécu en colocation avec des femmes et des hommes qui ont clairement été des repères, mais plus qu'essentiels pour ma fille, vraiment. Enfin, c'est flagrant, là, que je vois comme elle est aujourd'hui, l'humour qu'elle a, la répartie qu'elle a, des tas de choses qui ne m'appartiennent pas du tout et qui appartiennent à des gens avec qui j'ai vécu pendant quelques années, quoi. Du coup, je ne sais pas si ça peut s'appliquer à tout le monde ou si quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est sûr que la famille nucléaire, finalement, c'est assez récent dans notre histoire. Et moi, ça me paraît pas organique, ça me paraît pas fluide. Du coup, j'ai pas fait comme ça. J'en avais les moyens, je m'en suis donné les moyens, les deux, j'imagine. Mais en tout cas, je sais pas, quand je vois ce que ça donne, je trouve ça plutôt cool.
Est-ce que, d'un point de vue politique aussi, on pourrait, enfin, il y a des choses qui vous choquent ou qui vous, dans lesquelles vous êtes retrouvés peut-être en difficulté dans vos vies de mère, d'aller dans un endroit où, enfin, de mère ou de père, hein, parce que évidemment, des fois, on est deux souvent, la plupart du temps, j'espère, enfin, et deux ou plus. Mais voilà, où vous vous êtes dit, en fait, là. L'enfant en fait plus généralement est pas pris en compte en fait ici l'enfant n'a pas sa place donc en fait je pourrais pas venir avec donc moi de fait qui suis avec mon enfant que ce soit vous votre conjoint votre conjointe moi il y a plusieurs endroits où ça m'a fait violence en fait de me dire en fait de toute façon même si j'avais voulu venir j'aurais pas pu parce que il y avait pas la place pour que je vienne avec mon enfant. Est-ce que y a des choses qui ça vous est arrivé?
Tu peux me donner un exemple, Lisa, pour m'aider un peu?
Bah, par exemple, une histoire de table à langer. Il n'y a pas de table à langer dans le bar où je vais boire des coups. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bon, j'ai pas écrit toutes les... mais où l'endroit où je vais n'est pas du tout adapté physiquement, c'est-à-dire l'enfant doit rester posé à un endroit sans pouvoir bouger parce qu'en fait, il n'y a pas du tout d'espace plus large pour qu'il puisse au moins courir, des choses comme ça, en fait, ou des copains, des copines qui en fait n'ont absolument pas conscience de ce que c'est avoir un enfant et qui nous invitent dans des conditions, enfin juste où en fait c'est absolument pas possible d'amener Azou avec nous. Alors que si on l'avait pensé un mini, enfin s'il avait, ça avait été pensé un minimum, bah moi ça aurait été beaucoup plus simple pour moi d'être présente. Et surtout d'être présente mentalement, parce que je ne me serais pas souciée des questions techniques, parce que je savais que c'était pas un problème, quoi. Je ne sais pas si c'est plus clair, ou si Marie-Pont, ou tu as peut-être une...
Eh ben ouais, moi je me rends compte, quand tu parles, que moi j'étais une vraie punk, quoi. Du coup, je ne me posais pas la question, il n'y avait pas d'endroit pour longer, ça par terre. Enfin, de toute façon, globalement... Je j'ai jamais pu avoir une poussette parce que en fait j'étais toujours dans des endroits où il y avait de la terre, de l'herbe, ça grimpait, ça, enfin une écharpe de portage c'était compliqué, ça faisait 6 mètres, etc. Du coup j'avais vite fait cousu un truc qui était bien élastique dans lequel je pouvais la balader. Enfin, en gros, j'ai l'impression d'avoir toujours été dans des situations que tu décris et de m'être débernée avec ça. Et je dis pas que c'est bien.
Est-ce que ça t'aurait aidé que ce soit plus facile?
Mais ouais, enfin, grave.
C'est, parce que moi aussi, c'est ça. J'ai changé sur les tables de bar ou sur le comptoir, il n'y a pas de problème. Mais quand même, j'ai, comme elle dit un peu dans son texte, des fois j'ai envie d'être une bourgeoise. Et ben en fait, il y a des fois où tu n'as pas envie que ce soit compliqué, quoi. Et voilà,
c'est là où j'allais en venir. Après, je pense que franchement, j'étais jeune. Et je pense que si j'avais eu ma gamine à 30 ou 35 ans, ça n'aurait pas été pareil. Mais parce que du coup, ça ne me faisait pas peur ou j'avais de l'énergie pour. Mais en tout cas, c'est exactement ce que je disais. Là où j'allais en venir, c'est que quand par exemple, je suis allée en Allemagne, j'étais là, waouh, c'est tellement bien en fait. Il y a des salles d'allaitement. Et c'est là en fait que tu te rends compte que oui, il y a des choses qui peuvent exister, qui peuvent être mis en place, et c'est super génial parce que ça t'économise une énergie de dingue, tu te sens vachement accueilli, etc. Du coup, je pense, ouais, là pour le coup, encore une fois, c'est des choses, elles n'existent pas, et je ne suis pas sûre qu'elles m'aient manqué parce que je pense que j'étais jeune, surtout, mais que quand elles existent, tu te rends compte comme ça change la donne, et clairement, en France, on n'est vraiment pas avancé là-dessus. Au Québec, notamment, ils sont super aussi. Au Québec, en Allemagne, franchement, ces deux pays, ils sont vraiment top à la pointe, quoi. Et les femmes, elles sont battues pour ça.
Et je pense à des choses aussi très simples dans l'attitude des gens, en fait. Par exemple, moi, plusieurs fois, j'ai allaité mon enfant. Je viens juste d'arrêter, là, elle a 10 mois. Et pendant tout ce temps, il y a plein de fois où, en fait, je me mettais à table, je la mettais au sein. Et puis, on me disait un peu, sinon, il y a une pièce à côté, là, que je peux te réserver pour... si tu veux. En fait non, enfin tu vois, j'ai pas envie d'aller me faire chier à côté toute seule comme une conne, donc voilà, il y a aussi, je trouve, même au-delà de la question logistique, des choses un peu d'attitude et des gens d'avoir un peu pensé à ça. Et après, j'en veux pas aux gens qui n'ont pas pensé à cette question, parce que je pense que j'y avais pas pensé moi-même avant d'avoir un enfant, mais voilà, j'ai l'impression que ça pourrait être plus des débats de société, quoi.
Moi, j'ai juste une petite anecdote qui n'a pas une grande portée politique, hein, mais je me souviens de la première fois où on a voulu aller faire du camping avec Simon. Simon dormait la nuit, donc on est parti dans un petit camping. Et puis le monsieur, quand on est arrivé, a vu notre enfant qui avait peut-être un an, en lui disant, vous savez, les gens viennent ici au camping, c'est pour être calme. Un petit de un an, faut le surveiller, faut le tenir. Et puis voilà. Bon, ok, très bien. Et puis on installe notre campement et la nuit arrive, on se couche, tout va bien. Et en pleine nuit, en fait, Simon a hurlé pendant, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et tous les gens autour ont commencé à râler. Et là, on s'est senti mal, en fait. Mal. Alors que, dans le camping, il y aurait eu un endroit pour les familles, par exemple, ou les gens qui veulent vraiment être au calme et avoir du silence. Enfin, bon, c'est un souvenir de situation qui nous a mis mal à l'aise avec notre petit. Et je rejoins ce que tu dis. Je pense que comme on n'a pas les choses, je me souviens avoir été dans les aéroports, un aéroport en Guadeloupe où il n'y avait rien pour les enfants, où j'ai changé mon petit par terre. On fait. Et puis voilà, malheureusement.
Est-ce que l'enjeu finalement, ce serait pas justement de ne plus se retrouver mal à l'aise dans ces situations en fait, et que bah oui, ça c'est la vie, un bébé qui pleure toute une nuit, et puis en fait c'est voilà, j'ai l'impression qu'il y aurait en tout cas un message un peu, moi j'aurais envie de faire passer un message. Je disais tout à l'heure avec la copine, on avait envie de sortir avec des pancartes dans la rue pour dire en fait voilà ce que c'est et voilà ce qu'on aimerait que vous preniez en compte aussi. Vous, les autres personnes qui nous écoutaient et qui n'avaient pas forcément d'enfants, ou voilà, dont la question de des enfants ne vous intéresse pas forcément, moi, j'aurais juste envie de dire que c'est important, cette question de l'inclusion, parce qu'on parle beaucoup aussi des discriminations de toutes sortes, et que moi, je me sens en fait dans cette position depuis que j'ai eu un enfant, un peu d'être exclue de beaucoup de cercles et beaucoup d'endroits, et d'avoir coupé avec beaucoup de groupes de copains, de réseaux, parce qu'en fait voilà, il y a un travail d'une part à faire sur soi, je trouve. Pour prendre confiance, de se dire, mais en fait, peu importe que ce qu'on va me dire, ce que je vais justement être avant-gardiste là-dessus, mais comme des fois on n'a pas le courage, voilà, on a pas la force de le faire. C'est chouette quand les autres le font et le prennent en compte.
Google-lesmouettes.com, c'est une radio web, je sais pas si tu connais ça, à écouter.